Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal, grâce à Mzati Massanzi.
Au Nord Kivu, la MONUSCO renforce sa présence à Kanyabayonga pour aider l'armée à faire face à l'avancée des rebelles du M23 vers cette localité presque vidée de sa population. Des casquets bleus de la brigade et de la force d'intervention rapide sont déployés sur place pour protéger les civils et appuyer les FARDC. En Ituri, 40 journalistes de Bunia et d'autres entités de la province s'engagent à lutter contre la désinformation ainsi que la manipulation dans le traitement des informations. Engagement pris ce vendredi à l'issue d'une journée d'échange initiée par la MONUSCO sur l'information et les enjeux sécuritaires dans la région. Le gouverneur des provinces appelle ses hommes des médias au professionnalisme. Notre invité est le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section en Sud Kivu. Darius Kitoga nous parle de la rencontre des journalistes de cette province avec la délégation conduite à Bukavu par Bruno Lemarquis, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'humanitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne condition d'écoute. Au Nord Kivu pour commencer, la MONUSCO vient de renforcer sa présence à Kanyabayonga pour aider l'armée à faire face à l'avancée des rebelles du M23 vers cette localité du territoire des Lubero. Des casquets bleus de la brigade et de la force d'intervention rapide ont été déployés sur place hier pour protéger les civils et en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Selon des sources militaires, une réunion de coordination des opérations entre les deux forces a eu lieu ce samedi. Signalons par ailleurs qu'un calme précaire est observé depuis ce matin à Kanyabayonga, une commune rurale presque vidée depuis jeudi de sa population. Les FARDC et les casquets bleus mènent des patrouilles dans la zone. Les staffs locaux et internationaux de la MONUSCO Sud Kivu se sont dit au revoir hier à Murumba dans la soirée. Un moment de partage et de réjouissance marqué par des émotions. C'est à l'occasion de la fermeture du bureau de la mission des Nations Unies dans cette province. La séparation déjà évidente ne semble enchanter personne, que ce soit du côté congolais ou du côté expatrié. Ils ont pour la plupart totalisé une vingtaine d'années au service de la mission de maintien de la paix en RDC. Jean Kassami signe ce reportage.
Tous les mots de circonstances et témoignages prononcés au cours de la soirée de partage et de revoir étaient émouvants. Floribert Bayongwa, représentant du staff de la MONUSCO Sud Kivu.
La décision prise par notre gouvernement de demander le départ de la MONUSCO ici et maintenant aura certainement des conséquences. D'ici là, des milliers d'enfants commenceront à nous poser des questions le matin. Papa, Léo a tout à coup là.
Une porte qui se ferme peut occasionner l'ouverture d'une dizaine d'autres, renchérit les représentants du personnel international Émile Ada.
Comme vous savez, les missions des Nations Unies n'ont pas vocation à être éternelles. Donc, il était prévu que la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo finira un jour. Donc, elle est en train de prendre fin.
L'expérience accumulée au sein de la mission des métiers de la paix en RDC est une opportunité d'ouverture de nouveaux horizons. Propos du représentant du gouvernement provincial, Sisawa Numbe.
On avait organisé une sorte de cérémonie d'opportunité d'emploi. Il y avait les agences, il y avait aussi d'autres institutions.
Plus de 5000 agents se séparent contre leur gré de la MONUSCO au site Kivu. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Comme annoncé au sommaire, en Ituri, 40 journalistes des différents médias de Bunia et d'autres entités de la province prennent l'engagement de lutter contre la désinformation ainsi que la manipulation dans les traitements d'informations. Ils ont manifesté hier à l'issue d'une journée d'échange initiée par la section de l'information publique de la MONUSCO sur l'information et les enjeux sécuritaires en province. Le gouverneur, présent à cet atelier, encourage les professionnels des médias à respecter le code d'éthique des journalistes. Le compte-rendu d'Ezekiel Mousalia.
L'accès aux sources crédibles de l'information, la désinformation dans les contextes des conflits et des tensions sécuritaires sont des sujets développés autour d'une table entre les journalistes et les responsables de l'information publique de la MONUSCO, du droit de l'homme ainsi que du porte-parole de l'armée. Ce chevalet de la plume ont été outillés sur le bon usage de l'information comme une arme de guerre qu'ils doivent manipuler avec prudence. Certains s'expriment.
La désinformation tue. La désinformation fait en sorte que la communauté peut s'embraser.
Pour lutter contre la désinformation, il faut beaucoup vérifier la source.
De son côté, le gouverneur de province invite ses chevaliers de la plume au respect d'éthique et de la déontologie du journalisme et surtout d'éviter le communautarisme dans le traitement de l'information. Le général Johnny Luboyan Kachama.
Vous, journalistes, vous ne pouvez pas être pro ou anti, non. Vous êtes pour l'information pointée. Et aujourd'hui, nous avons toutes ces violences. C'est rare qu'on ait des leaders qui se lèvent, qui parlent pour l'Ituri. Souvent, les gens sont accrochés, bon, des fois par peur, hein, sont accrochés à leur communauté. Mais pas vous, les journalistes.
La chef de l'information publique de la MONUSCO invite les journalistes à faire preuve de la patience et éviter de se fier à une seule source pendant le traitement de l'information. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Même chose au Nord Kivu, où 85 journalistes de Beni, dont 16 femmes, ont été sensibilisés ce vendredi sur le rôle des médias dans la lutte contre la désinformation. C'était au cours d'une conférence débat organisée par la mutuelle des journalistes de Beni, avec l'appui de la section de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO. Objectif, combattre la propagation des fausses nouvelles et la manipulation à travers les médias. Le point avec Grévy Salomon.
Le porte-parole de l'armée dans le secteur opérationnel Sokola 1, l'un des intervenants à cette sensibilisation, a insisté sur le fait que les réseaux sociaux contribuent à la désinformation dans le contexte de la guerre, d'où son appel aux journalistes à la responsabilité dans le traitement de l'information.
Il y a aussi une autre menace qui s'est invitée dans la guerre, c'est les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on se bat contre les ADF, contre les M23 et les réseaux sociaux. Et la presse doit nous aider à travers la clause de conscience.
Le chef de bureau de la MONUSCO, Beni, a abordé dans le même sens. C'est le Josiah Obat. La désinformation empêche parfois la MONUSCO de mieux exécuter son mandat de protection des civils dans la région de Beni, Butembo et Lubero.
Les populations ont du mal de savoir quelle est la vraie information, quelle qu'il faut. Parfois, ça bloque l'accès à la MONUSCO. Intervenir parce qu'ils ont consommé ou bien ils ont lu quelque chose qui n'est pas fiable.
Pour Trésor Malou, journaliste à la Radio Moto, est l'un des participants. Cette sensibilisation va contribuer au travail quotidien des journalistes.
Nous apprenons tous les jours. Les quelques notions que nous avons apprises vont nous pousser à améliorer nos conditions, délivrer les formations à la population, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias.
Beni, Grévy Salomou, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province du Maniema, les autorités locales, acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme, ont pris part à une formation sur les fondamentaux des droits humains organisée par la Synergie des protections des défenseurs des droits de l'homme pendant 2 jours, soit du 28 au 29 mai. C'est dans le cadre de la protection et promotion des droits des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Selon Vicar Bantundi Angi, coordonnateur du foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse, facilitateur, l'objectif est de chercher une bonne collaboration entre les acteurs des droits humains et les autorités. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Il y avait un constat selon lequel les deux acteurs, donc les étatiques et non étatiques, se regardaient à chef de faïence en tout ce qui concerne les questions liées aux droits humains. Pourtant, ils poursuivent le même objectif, c'est-à-dire améliorer la bonne gouvernance, garantir le respect des droits humains, vivre un véritable état des droits, une véritable démocratie. Mais quand les uns des autres cherchaient à dénoncer les mauvaises pratiques et consorts, en tout cas, il n'y avait pas un beau climat et on a enregistré autant de cas d'arrestation des menaces contre les défenseurs des droits de l'homme. Alors ça nous a motivés à venir organiser cette formation qui nous a permis d'aborder les fondamentaux des droits humains, les mécanismes de protection. Mais nous avons insisté sur la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Ce qui nous achante, c'est de constater que les autorités et les acteurs de la société civile viennent de prendre des engagements fermes sur leur collaboration pour que les défenseurs des droits de l'homme puissent travailler à toute quiétude. Et ça nous rassure parce qu'au moins, nous sommes en train de casser les mythes de l'hypocrisie.
Revenons ici à Kinshasa. Vous le savez, le monde a célébré hier, le 31 mai, la journée sans tabac. À cette occasion, une conférence débat a été organisée hier même par le ministère de la Santé publique en collaboration avec la Direction nationale au programme de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Objectif, démontrer par des preuves tangibles que les industries du tabac ont aussi ciblé les enfants. Reportage de Moïse Lindombe, rendu ici par Jules Mister Bilanda.
C'est dans les bâtiments qui abritent les programmes nationaux de lutte contre la toxicomanie et PNLCT en sigle, dans l'enceinte de l'Institut supérieur des techniques médicales, que s'est déroulée cette activité en présence du directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, du bourgmestre de la commune de Kassavubu, du directeur de PNLCT et des différents invités. Un plaidoyer fiscal sur les tabacs en RDC a été fait par les intervenants. Monsieur Patrice Milombo, directeur de PNLCT, revient sur les conséquences mortelles de la pandémie du tabagisme et des précautions prises pour la prévenance de la consommation en RDC chez les enfants de 13 à 15 ans.
Un cerveau qui est déjà au bas âge dépendant devient accro. Et c'est ce qui est très dangereux. Et c'est ça, l'industrie fait tout pour qu'il recrute de nouveaux consommateurs qui sont les jeunes. Comme ça, il a un nombre important de consommateurs demain. Nous avons beaucoup de précautions. La première précaution, c'est d'abord communiquer pour changer le comportement.
Il faut noter que les statistiques soulignent les besoins urgents des politiques visant à protéger les jeunes des tactiques de l'industrie du tabac et à réduire la mortalité et la mobilité liées au tabagisme.
Et puis, le service national a remis hier vendredi 500 bancs à l'université de Kinshasa sur un lot prévu de 2000. Ces bancs ont été fabriqués par les bâtisseurs, ces anciens délinquants communément appelés Kuluna. Le commandant du service national loue les efforts fournis par le président de la République pour aider ces jeunes à se réinsérer dans la société en se rendant plus utiles. Pour sa part, le recteur de l'université de Kinshasa, au-delà de la reconnaissance, salue un partenariat durable avec le service national. On écoute tour à tour le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik et le professeur Jean-Marie Kayembe dans ses propos recueillis par Alain Rung.
L'université de Kinshasa recevra un total de 2000 bancs, soit 10 000 places, dont 500 bancs sont remis aujourd'hui. Les autres lots suivront progressivement chaque semaine. Il vous souviendra que lorsqu'en 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait décidé de confier ces bandits urbains au service national en vue de leur encadrement, personne n'y croyait. Ils sont là, bien vivants et transformés. Ils ont été formés au métier et sont utilisés par le service national dans ses chantiers et ateliers.
Distribuer des bancs, c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira « l'homme est totalement transformable ». Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons, l'Université de Kinshasa, celle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens.
Cette autre nouvelle qui nous vient du Haut-Katanga, où les anciens agents de la Gécamines, communément appelés les départs volontaires, reviennent à la charge. Plus de 20 ans après, ils continuent de réclamer que cette société les remette dans leurs droits. Le mercredi, ils ont fait un sit-in devant les bureaux de la direction générale à Lubumbashi. Ils estiment qu'ils ont été floués lors du calcul de leurs décomptes. On écoute leur porte-parole, Crispin Tambwe, au micro de Jean Gando.
Bon, nous sommes ici pour demander à la société de faire un protocole d'accord avec nous, et soi-disant des départs volontaires, parce qu'on a été payé sans pouvoir respecter les lois qui régissent le licenciement. Nous exigeons qu'on nous paye les arriérés de salaire et des prestations sociales INSS. Nous sommes allés en retraite depuis 2003. C'était une retraite contrainte. Nous sommes arrivés à signer parce que la Gécamines psychologiquement nous a laissé 4 ans sans pouvoir nous payer. C'était ce qui nous a poussé à nous faire sortir de la Gécamines, parce qu'on devrait survivre. Nous avons signé les licenciements, mais licenciement qui n'a pas été respecté selon les normes.
C'est-à-dire?
Il faut que la Gécamines établisse le bulletin de fait carrière sur lequel doit se figurer les avantages, les décomptes, les arriérés, tout et tout ça. Ça fait 20 ans que nous courons derrière cet argent, malgré nos correspondances à la présidence, à la primature, à la Gécamines. Alors là, nous sommes obligés de venir maintenant ici pour qu'on fasse le protocole d'accord. Nous sommes sortis 10 655, les survivants sont dans le nombre de 300. Maintenant, nous sommes venus pour appliquer la dernière bombe, dormir ici, mourir ici, qui prépare les cercueils.
Notons que le même jour dans la soirée, ils ont été chassés par les forces de l'ordre.
Actualité internationale.
Alors que le décompte des voix des élections générales de mercredi en Afrique du Sud est quasiment bouclé, à 97,7%, les résultats confirment les désamours des électeurs pour le parti au pouvoir. Le Congrès national africain ANC reste le premier parti du pays, mais est fortement sanctionné. La formation de Cyril Ramaphosa n'obtient que 40% des suffrages. Il perd ainsi sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit du jamais vu depuis la fin de l'apartheid.
L'invité.
Le séjour du groupe de coordination des partenaires durant 5 jours à Bukavu a permis aux responsables des médias d'étaler leurs besoins en termes d'appui pour le bon fonctionnement de la presse au Sud-Kivu. Le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section Sud-Kivu, s'est confié à Radio Okapi après la rencontre avec la délégation conduite par Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'humanitaire. Darius Kitoga s'entretient avec Jean Kassami.
Darius Kitoga, bonjour.
Bonjour.
L'UNPC Sud-Kivu vient de passer toute une journée avec les hôtes de marque, une forte délégation de Nations Unies. Pour vous, est-ce un plaisir?
Oui, c'est un plaisir. C'est une délégation de bailleurs, en effet, dirigée par Bruno Lemarquis, qui est le représentant résident. Et il y a également Denise Lueti, qui est responsable de la coopération suisse au Sud-Kivu. Mais également, il y a Evelyne, responsable de la coopération des Pays-Bas. Et cette mission, bien sûr, est venue voir c'est que la coopération suisse appuie en effet dans la presse et dans le média ici au Sud-Kivu. Ils ont jugé de passer aussi voir les services de monitoring de médias, qui est un service unique d'ailleurs en République démocratique du Congo. On n'en a pas encore deux, il y en avait dans le temps à Kinshasa et dans certaines provinces, mais jusque-là il n'y a plus d'équipement. Alors qu'ici au Sud-Kivu, avec l'autorégulation qu'assume l'Union nationale de la presse du Congo, on dispose de cet équipement de monitoring de médias et pour nous c'est une fierté.
Qu'est-ce que l'UNPC attend de ce passage?
L'UNPC attend de ce passage un renforcement des capacités et nous pensons qu'au moment où la MONUSCO est en train de quitter la République démocratique du Congo, il y a un certain vide qui risque de se créer. Parce que 20 ans après, on aura laissé ses empreintes. Il faut également que l'on comprenne comment est-ce qu'on peut pérenniser ce qui était à tout positif laissé par cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes fiers et heureux de recevoir cette délégation. Et nous pensons que ça sera un plus pour l'Union nationale de la presse du Congo, l'Union qui est toujours en quête de beaucoup de formations. Il faudra que l'on voit dans quelle mesure on peut peut-être accompagner le média qui aide effectivement la population à sortir des discours de haine, à sortir des xénophobies et à promouvoir une certaine tolérance, réception, compréhension. Et je pense que peut-être, si Dieu le veut, l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud, qui vous peut espérer grand de cette visite.
Dans quel état financier cette délégation trouve-t-elle les médias de la province?
C'est dans un état précaire. Ça c'est connu. Vous savez que beaucoup de journalistes travaillent dans une précarité sans nom. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas d'horaire. Et c'est sur ces entrefaites en effet que cette délégation arrive.
Lors des échanges avec Bruno et toute sa délégation, on a entendu tous les intervenants insister sur la pérennisation de la radio Okapi. Qu'est-ce qui vous fait insister sur cet aspect-là?
Mais la radio Okapi a été une radio de référence ici chez nous. La radio Okapi a contribué efficacement et de manière poignante à la résolution des conflits. Il faut le reconnaître, depuis Sun City, nous avons commencé à écouter Okapi et ça a été notre rêve. Et cette radio des Nations Unies a tiré son épingle du jeu dans le méandre congolais. Et si aujourd'hui tout le monde réclame que la radio Okapi ne puisse pas disparaître et qu'elle continue à fonctionner, c'est en connaissance de cause. Nous avons toujours vu et suivi que lorsque les autres médias avaient peur d'aborder tel et tel sujet, eh bien pour Radio Okapi, c'était cerise sur les gâteaux. Et cette radio des Nations Unies s'était respectée en République démocratique du Congo. Et nous avons aimé cette liberté d'expression que la Radio Okapi nous faisait vivre pendant autant d'années. Et que l'on nous dise aujourd'hui que la MONUSCO est en train de partir de la République démocratique du Congo et que la radio Okapi aussi puisse disparaître comme ça, comme un météore qui apparaît et disparaît dans l'espace, eh bien ça ne nous enchante pas. Voilà pourquoi nous sommes derrière toute initiative qui voudrait que la radio Okapi puisse continuer son travail en République démocratique du Congo.
Darius Kitoka, merci.
C'est moi qui vous remercie, confrère.
L'invité du journal, le président provincial de l'UNPC au Sud Kivu, s'entretenait avec Jean Kassami. Est-ce la fin de ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Jude Mister Bilanda? Debs Vita a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. 15h20 à Kinshasa. Merci pour votre attention.